La technique, c'est la voiture que l'on conduit, le téléphone qui nous suit partout, ou la Wi-Fi dans nos salons. Mais c'est aussi et surtout le stylo avec lequel on écrit sa liste de courses, le couteau qui coupe nos carottes, la manière dont on parle, marche et pense. La technique est partout, invisible et assimilée, et dans les minutes qui suivent, nous allons la chercher là où elle se cache, tout près de nous. Elle est à la fois savoir-faire et outil, un ensemble de procédés informels incorporés dans des objets créés par l'être humain. Partez avec nous à l'aventure dans un monde que l'on connaît trop bien et que l'on a donc arrêté de voir. Et on vous prévient, ça va être technique.
Si Che Guevara fait partie des plus grandes figures révolutionnaires et anticapitalistes de l'histoire, sa mémoire est chaque jour bafouée. Alors qu'il s'opposait au libre marché et aux prémices de ce qu'allait devenir la société consumériste, la recherche T-shirt Che Guevara offre plus de 2,5 millions de résultats dans Google. Le symbole révolutionnaire est réapproprié en objet marchand, au service du développement du capital. On peut en dire autant des hippies ou des punks, des groupes emblématiques de la contre-culture, qui ont, par leur expression vestimentaire, incarné une lutte, et notamment une lutte symbolique contre le capitalisme. Pour autant, ces dernières semblent n'avoir eu aucun effet. Au contraire même, des marques de fast fashion se félicitent de vendre en masse des vêtements pourtant inspirés de cultures les contestant frontalement. Des objets de révolte et de contestation sont appropriés par le capitalisme, pour son compte, en objets de consommation. Alors d'où vient ce paradoxe ? Comment des vêtements portés dans un but contestataire ont finalement été récupérés et utilisés dans un objectif contraire à ce pourquoi ils ont été créés ? Certains arguent que le capitalisme est un système profondément vicié et opportuniste, qui sait parfaitement se nourrir de ces contestations. D'autres pensent que le problème se trouvait dans l'approche même de la révolte par les contre-cultures. Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre la logique du vêtement, ce qui se joue au niveau socio-technique, c'est-à-dire comment il participe de la construction de l'identité de l'homme et donc la façon dont il peut incarner la révolte politique. Afin de comprendre le paradoxe mentionné, il faut revenir en arrière et retracer l'histoire du rapport de l'homme aux vêtements. En suivant cet itinéraire, nous tenterons de déceler ce qui provoque cette récupération et surtout, comment elle se caractérise. Pour tenter d'y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir Héloïse Bouisset, qui a réalisé un mémoire de recherche d'histoire des techniques intitulé « Le vêtement contre-culturel, l'aporie d'une révolte ». Bonjour Héloïse, je suis ravi qu'on ait cet échange. Déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce qui a motivé la rédaction de ce mémoire et pourquoi tu t'es intéressée à ce sujet pour en faire de la recherche ?
Bonjour Martin, merci de m'accueillir dans cet épisode aujourd'hui. Moi, ce mémoire, je l'ai écrit en 2022 et je me souviens qu'à l'époque, j'avais envie de parler de vêtements parce que ça a toujours été un sujet d'étude qui, moi, me touchait particulièrement, de comprendre en fait comment est-ce que notre vêtement, notre façon de nous habiller, participe à la formation de notre identité et aussi participe à exprimer des luttes plus ou moins de façon réussie.
Très bien. Alors, avant de rentrer dans le dur du sujet, qui est donc le vêtement contre-culturel, mais bon, qui n'est pas forcément un concept très accessible comme ça de prime abord, on va repartir du début. Et donc, on va essayer d'expliquer ce qu'est un vêtement, tout simplement. Parce que c'est un objet technique qui fait tellement partie de notre quotidien, en fait, on le questionne presque pas ou plus, alors que pourtant, il revêt une importance fondamentale. Tu expliques notamment dans ton mémoire que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le vêtement il a en fait très peu évolué au cours de l'histoire et qu'il participe même d'une tendance. Alors est-ce que tu peux étayer là-dessus ?
Alors c'est plutôt André Leroy-Gourhan qui parle de tendance et en désignant le vêtement comme tendance, il va un peu à contre-courant de ce qu'on dit généralement sur la mode et sur le vêtement, comme quoi la mode serait toujours de la nouveauté, toujours du renouvellement. Et lui, ce qu'il dit finalement, c'est que le vêtement, il n'a pas vraiment évolué. Il compare, par exemple, l'époque de Louis XV et la nôtre. Et il dit que notre chapeau, il a toujours une calotte et un bord. Le jabot, en fait, c'est devenu une cravate. Que la chemise, elle a perdu finalement que quelques dentelles. Et que nos bas sont un peu réduits en nos chaussettes. En fait, ce qu'il dit, c'est que le vêtement, c'est une tendance au sein des sociétés humaines. Et que chaque société va décliner le vêtement dans des faits en fonction de ses coutumes, de sa culture, des fibres qu'on va trouver sur place en fonction des aires géographiques, mais que finalement, les vêtements, ça s'attache aux hanches, au cou, aux épaules ou aux coudes, qu'en fait, ils ont toujours ces mêmes points d'appui gravitaires et qu'en fonction de ces points d'appui et des différences culturelles et géographiques, on va avoir des faits, donc des costumes particuliers en fonction des sociétés, mais que finalement, ça évolue pas trop au cours de l'histoire.
Donc, la tendance vêtements, c'est quelque chose de général, d'unitaire historiquement. Et donc, ce que tu dis, c'est que les faits, ce sont les différents costumes qui évoluent en fonction des cultures, des aires géographiques, etc. Mais du coup, est-ce que les différents costumes, ils peuvent servir à se revendiquer d'un groupe et jouer le rôle de marqueur social? En fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que historiquement, comment les vêtements, ils participent en fait, à nous définir en tant qu'individu? Et est-ce qu'il y a des évolutions, des ruptures vis-à-vis de ça?
Ouais, alors en fait, les vêtements, ils vont plutôt... Le rapport qu'on a à nos vêtements, en tout cas, va plutôt évoluer en fonction de la notion d'individu. Comment est-ce que, dans nos sociétés, être individu, s'individuer, être individu au sein d'un groupe, comment cette notion-là va évoluer? En fait, entre les sociétés traditionnelles, où le vêtement il était plutôt utilisé pour marquer son statut au sein de l'ordre social... Certains vêtements étaient réservés à certaines professions, en fonction des genres, en fonction du statut matrimonial. Est-ce qu'on est marié, est-ce qu'on n'est pas marié, est-ce qu'on est noble, est-ce qu'on n'est pas noble. Ça, c'était plutôt une société traditionnelle. Et ensuite, la notion d'individu évolue et on va avoir des usages nouveaux du vêtement.
Ouais, on aura l'occasion de revenir là-dessus parce qu'effectivement, c'est un vrai sujet. Et tu dis justement que, dans cette idée d'individu, que le vêtement participe d'une individuation. Donc, est-ce que tu peux essayer d'expliquer un peu ce que tu entends par là et surtout pourquoi, selon toi, le vêtement, c'est un exemple pertinent de ce phénomène ?
L'individuation, c'est un concept qui a été plutôt développé par le philosophe Simondon. Et lui, il théorise l'individuation comme un processus de devenir individu. Il parle d'hétérogénéité métastable. Alors, c'est un peu compliqué, mais c'est pour dire que nous, on est individu, on reste individu parce qu'on actualise tout le temps notre différence avec les autres. Et ce qui est intéressant dans l'étude du vêtement, c'est que le vêtement sert à marquer cette différenciation avec les autres, mais en fonction de l'évolution, la notion d'individu, il ne va pas le faire de la même façon.
Et donc, on sent bien qu'à ce stade, vis-à-vis de ce que tu dis, le vêtement, c'est quand même un marqueur social d'appartenance important. Et donc, est-ce qu'on pressent aussi, historiquement, que changer de vêtement, c'est montrer sa mise à distance, en fait, d'un ordre normal des choses? Et donc, est-ce que la différenciation par le vêtement intervenait avant l'époque contemporaine, qui nous paraît... Ça nous paraît évident aujourd'hui, mais est-ce que c'était déjà le cas à l'époque, en fait?
Alors, à l'époque, c'était d'une façon assez différente. Aujourd'hui, on affirme son goût personnel ou ses revendications, dans le cas des contre-cultures, à travers son vêtement. Dans les sociétés traditionnelles, le vêtement, c'est avant tout une façon de s'ancrer au sein de sa communauté. Porter un vêtement qui a été créé par les artisans qui nous entourent, c'est s'assurer de... la moralité de son vêtement, c'est-à-dire que l'artisan qui confectionne un vêtement qui est dur, qui est de qualité, qui participe à la société, c'était garant en fait de sa propre morale à soi. Les femmes aussi, elles fabriquent leur trousseau avant de se marier, ça garantissait leur morale à elles. Et troisième chose, ce que je disais, c'est que les codes vestimentaires étaient absolument... fondamentaux pour l'entretien de l'ordre social. On communiquait son appartenance au groupe avec son costume, avec les pratiques collectives qui étaient attendues. Les soirées, c'était pour la noblesse. Certains rangs sociaux n'avaient pas le droit de porter certaines couleurs, etc. Il n'y avait que lors de ce qu'on appelait les carnavals qu'on avait le droit d'emprunter le costume d'une autre classe sociale pour le tourner en dérision. C'était à peu près le seul moment où on pouvait s'autoriser ça.
Ça, c'est ce que tu nous dis, c'est pour les sociétés, disons, traditionnelles. Et c'est vrai qu'il y a un sujet, alors qu'on a évoqué en filigrane un peu avant dans cet entretien, qui est la question de l'individu, et en fait de l'individualisme. Et justement, tu expliques dans ton mémoire que le rapport vêtement est profondément impacté par l'émergence de l'idée d'individu. Du coup, juste pour resituer, parce que là on est sur des notions assez abstraites, quand et comment apparaît cette notion, ce nouveau paradigme sociétal qui est celui de l'individualisme ou de l'individu tout simplement?
L'individu au sens moderne, il apparaît à peu près à partir du 17e et du 18e siècle, où en fait on va cesser de s'hétérodéterminer, si on parle comme Simondon, mais plutôt de se sentir individu, non plus par son appartenance à la communauté et par le témoignage de sa place au sein d'une communauté, mais plutôt par sa différenciation vis-à-vis des autres. En fait, à partir des Lumières, on a une notion d'individu en tant qu'être autonome. Être individu, ça suppose d'être plus déterminé par les autres, par la société, de choisir son propre destin, de se choisir soi, et donc d'être autonome.
Ouais, donc il y a quand même un changement, je dirais presque métaphysique en fait, et de rapport au monde et de rapport aux autres à ce moment-là. Et donc effectivement, on pressent un peu, mais ça va avoir quoi comme impact entre le rapport de l'individu, donc au sens désormais moderne du terme, et le vêtement?
En fait, on change de fonction significative du vêtement. En fait, qu'est-ce que le vêtement va témoigner? Dans les sociétés traditionnelles, avec un concept traditionnel d'individu, le vêtement, il sert à se placer au sein de l'ordre social. Quand l'individu moderne émerge, quand cette notion d'individu se transforme, l'individu, il est désormais autonome, et aussi la responsabilité vis-à-vis de sa communauté de dire qui il est. C'est à ce moment-là qu'on voit émerger ce qu'on appelle l'idéal d'authenticité. En fait, l'individu, il est responsable de témoigner aux autres de qui il est, de sa morale, de son statut. On ne va plus essayer de se placer en tant que membre de la communauté, mais plus de dire qui je suis, comment est-ce que je m'exprime et quel est mon rapport à moi et au monde.
Oui, donc c'est vraiment la transcription de l'idée d'individualisme au sein de cette technique qu'est le vêtement. Et pour autant, ce que tu retranscris dans ton mémoire, c'est pas vraiment ce qu'on observe. C'est-à-dire qu'à l'époque industrielle, les moyens techniques changent. Et en fait, ils permettent de standardiser et de massifier la production de vêtements. Et donc cet individualisme moderne, finalement, provoque paradoxalement un conformisme du consommateur. Donc on est de plus en plus individu, et pour autant, en termes de pratique, eh bien, c'est de plus en plus uniforme. Alors comment on peut expliquer ce phénomène?
Déjà un peu de recontextualisation historique et plutôt temporelle. On n'arrive pas tout de suite, après l'émergence de l'individu moderne, à une grande conformité des vêtements. Il faut attendre le milieu du XXe siècle, donc les années 1950, pour vraiment voir émerger un conformisme des vêtements à cause de leur standardisation et à cause de la massification de l'industrie textile. Au cours du XIXe siècle, on voit déjà que le goût vestimentaire individuel émerge dans les classes aisées qui achètent de plus en plus de vêtements. On a l'émergence des figures comme le dandy en Grande-Bretagne, qui en fait cet individu de classe bourgeoise qui exprime son individualité par le vêtement, ce qui est une chose tout à fait nouvelle. Cependant, on n'a pas encore un immense conformisme du vêtement, puisque la machine de la fast fashion telle qu'on la connaît n'est pas encore en place. Par contre, à partir des années 1950, on voit apparaître l'espèce d'American Dream du monsieur en costume et de la dame en robe corolle qui sont dans leur petite maison suburbaine et qui ça se massifie. Et à partir de là, dans la société américaine surtout, on va avoir un certain malaise vis-à-vis de ce conformisme et donc plusieurs tentatives de l'industrie de faire finalement se marier ce désir d'individualité et ce paradoxe face à l'extrême standardisation des choses et notamment des vêtements.
Oui, effectivement, c'est surtout une question de processus qui met en fait du temps entre effectivement l'émergence de l'idée d'individu qu'on peut rattacher au 18e, l'industrialisation qui est plutôt 19e, cette uniformisation, ce conformisme du consommateur, lui est plutôt de l'ordre de la moitié du 20e. Donc c'est, les choses évoluent en ce sens. Mais donc, ce que tu dis, et là on rentre enfin dans le cœur de notre sujet, maintenant qu'on a bien compris voilà, la dynamique, je dirais, du vêtement à travers les âges. Face à ce constat d'individus un peu prisonniers de la consommation comme seul horizon et avec un but de se distinguer socialement, mais en fait se condamnent à reproduire au conformisme, à l'uniformisation des consommations et en l'occurrence vestimentaire. C'est dans ce contexte, donc en fait à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, qu'apparaissent des mouvements de contestation. Et parmi eux, tu le dis, on a pas mal de mouvements de contre-culture, que ce soit les hippies, les punks, le reggae. Plus tard aussi, on aura le hip-hop. Et est-ce que tu peux préciser ce qu'il faut entendre par contre-culture et expliquer ici comment la contestation du capitalisme pour ces différents groupes passe par le vêtement ?
La contre-culture, on peut appeler ça comme des comportements propres à un groupe social donné qui manifestent un écart par rapport à la culture dominante. Donc ça peut être par leurs vêtements, leur mode de vie, leurs actions, et ils veulent signifier un ensemble de valeurs, d'idéaux qui sont différents de la culture dominante. Elles témoignent en fait de la volonté de se différencier de la masse et de se retrouver dans une communauté qui partage les mêmes valeurs, les mêmes situations, les mêmes idéaux. La première espèce de contre-culture qu'on pointe généralement, c'est la Beat Generation. C'est une jeunesse américaine qui refuse la consommation à outrance, qui refuse l'American Dream et qui prône plutôt un idéal de vagabond libre, individuel. Après, on va avoir plutôt des contre-cultures, les contre-cultures hippies, qui eux vont plutôt prôner un retour à la vie en communauté, un pacifisme et un refus des valeurs capitalistes. Après, on va voir plutôt des jeunesses anticoloniales, notamment la jeunesse en Jamaïque qui va massifier la culture du reggae, qui va plutôt être une réponse aux colons britanniques. Ou en Grande-Bretagne, on a après aussi les punks, qui étaient plutôt une jeunesse plutôt marxiste de gauche, qui s'oppose aux conditions de vie des populations prolétaires dans les quartiers de Londres à cette époque-là.
Et justement, alors tu dis que voilà, ils s'opposent à cette espèce d'establishment, qu'il soit britannique ou américain. Mais donc, vestimentairement parlant, ça donne quoi ? Comment ? Alors, tout le monde a un peu en tête à quoi ça ressemble un vêtement hippie ou un vêtement punk, mais concrètement, c'est quoi cette esthétique qui va contre la consommation standard de vêtements que ce soit aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, en tout cas, on parle de zones assez occidentalisées. C'est quoi, voilà, le vêtement du hippie, le vêtement du punk, le vêtement du reggae, c'est quoi et comment ça participe de leurs revendications ?
Alors, les vêtements des contre-cultures, ça dépend finalement de chacune. Et elles ont leur propre style en fonction de leurs revendications particulières. Les hippies, eux, ils voulaient avant tout réformer la culture et... Et comment est-ce que l'esprit se libère de l'esprit américain de l'époque ? Donc, ils vont aller plutôt vers des vêtements amples, se tourner vers des cultures orientales qu'ils considèrent moins violentes sur leur esprit. Les cultures reggae anticoloniales, ils vont plutôt jouer avec la dénonciation du colon par la réappropriation de son vêtement et par l'intégration à la fois... du coup, de vestes militaires britanniques, mais aussi de vêtements traditionnels africains. Et les punks, eux, ils vont plutôt détourner soit des vêtements de la noblesse britannique, ils vont beaucoup utiliser le tartan, mais dans un style complètement déchiré, nihiliste, ou alors prendre des éléments dont ils devraient avoir honte, comme des jeans troués, l'utilisation d'épingles à outrance, des clous, etc., pour en fait réaffirmer leur pauvreté comme un peu un signe de fierté.
Comme évoqué en introduction, On voit aujourd'hui partout des t-shirts Bob Marley, Che Guevara, en fait des t-shirts de groupes qui se prétendent contestataires. On voit aussi des robes hippies, des perfecto punk avec des clous, et tout ça peut-être acheté dans des grandes centres commerciaux. On peut se demander comment la contre-culture est devenue mainstream finalement. À quelle contradiction est-ce qu'elles se sont heurtées? Et surtout, comment des symboles qui visaient à lutter contre le capitalisme, et de façon particulièrement frontale et explicite, se sont retournés contre eux? Est-ce que la lutte contre-culturelle a été dépolitisée, ou est-ce qu'elle était dépolitisée dès l'origine? Bref, est-ce que le vêtement contre-culturel s'opposait réellement au capitalisme? Mais celui-ci, on sait par ailleurs qu'il est extrêmement puissant, il sait se renforcer de ses contestations. On dit que le capitalisme, c'est bien se nourrir de ce qui le défie. Et donc, est-ce que c'est cette caractéristique, Héloïse, selon toi, qui a empêché la contre-culture de rester réellement contestataire?
Alors, c'est vrai que cette récupération, elle peut paraître au début paradoxale, parce que le vêtement contre-culturel, à ses racines, fondamentalement, c'est une manière de produire, une manière de fabriquer des vêtements qui s'oppose radicalement à une fabrication industrielle du vêtement. Les vêtements contre-culturels, quelle que soit d'ailleurs la contre-culture, c'est un vêtement qui est fabriqué par les communautés dans le but de s'ancrer au sein de ces communautés et de signifier le fait qu'on partage des valeurs, qu'on partage une situation, qu'on partage des idéaux. Finalement, on peut considérer que cette fonction presque traditionnelle du vêtement, elle survit en fait aujourd'hui chez ces mouvements contre-culturels, que le processus même de fabrication, il exprime un espèce de rapport traditionnel au vêtement en tant que objet d'ancrage au sein d'une communauté, qu'il est chargé d'un symbolisme qui construit le système de valeurs de ces communautés. Qu'en fait, face à l'immensité et la complexité du système économique et politique, la contre-culture, elle refait le monde selon ses propres codes, quitte à abandonner l'idée même de faire partie de cette culture dominante. Elle représente en fait une prise de pouvoir par ces groupes, notamment par leurs vêtements et ces nouvelles normes communiquées par ces vêtements, dans un monde qui leur est austère, qui leur est opposé. Ce qu'on voit, par contre, c'est que le vêtement contre-culturel, c'est un signe, c'est quelque chose qui témoigne de son identité et de son intériorité et de son authenticité. Que finalement, en fait, il va s'intégrer au sein d'un système de valeurs qui est commun avec le libéralisme et avec le capitalisme. Ce qui se passe, c'est qu'au-delà de la différenciation entre les différentes contre-cultures qui pouvaient exister, on va voir un espèce de phénomène contre-culturel qui va émerger. Qu'en fait, la contre-culture va devenir un phénomène presque homogène, qui va témoigner d'une seule idée, et c'est cette idée contre-culturelle qui, elle, va être récupérée par l'industrie, par le capitalisme, etc. C'est que, au-delà des modes de vie très disruptifs de certaines contre-cultures, on va voir émerger l'idée que ce dont les gens ont besoin de se libérer, c'est pas une classe particulière qui nous opprime, ni un système d'exploitation. Ce qu'il faut fuir, c'est le conformisme, et aller vers plus de liberté, plus d'individualité. Et ça, c'est une espèce de perversion de ce que disaient les premières contre-cultures, mais finalement, c'est une idée qui est, elle, pour le coup, très appropriable par le capitalisme et par l'industrie. Et c'est ce désir d'expression individuelle qui va être dépolitisé et qui va être exprimé par les vêtements, par se différencier par le vêtement, par être un individu libre, un individu non conformiste. Et ça, pour l'industrie, c'est un peu une mine d'or.
Mais du coup, si je comprends bien, même si effectivement le capitalisme est puissant, se nourrit de sa contestation, en fait, tu sembles dire qu'en réalité, le vêtement contre-culturel, et donc les contre-cultures, ne formulaient pas vraiment de critique radicale du capitalisme. C'est une lutte qui passe avant tout par le symbole, et rien n'est plus récupérable qu'un symbole, d'autant que, comme tu le dis, en fait, il encourage une logique différenciatrice qui peut très bien se fondre, en fait, dans un régime marchand et commercial. Tu dis vers la fin que la révolte contre-culturelle semble avoir oublié ce contre quoi elle voulait se battre, si tant est qu'elle ne l'ait jamais su. Alors ça paraît un peu brutal pour les hippies, mais qu'est-ce que tu voulais dire par là, au-delà de cette magnifique punchline?
En fait, le vêtement contre-culturel, il a l'immense défaut de finalement être un vêtement. Par ça, j'entends qu'en fait, c'est un objet, et un objet qui est facilement... qu'on peut facilement reproduire de façon industrielle. Et ce qu'on voit, c'est que au fur et à mesure que les contre-cultures deviennent finalement normales dans le paysage urbain, on a des marques qui vont commencer à se réapproprier des vêtements de la contre-culture pour les produire à grande échelle et finalement redéfinir des comportements qu'on pourrait qualifier de déviants en des comportements plus doux, en fait. On considère que les contre-cultures, c'est un peu le passage obligé d'une jeunesse qui se cherche, que c'est plus vraiment une déviance, mais que c'est l'expression d'un espèce d'état d'âme adolescent. Donc en fait, le punk, il est plus tellement considéré comme un individu déviant et donc dangereux, mais plutôt comme un adolescent qui se cherche et qui cherche aussi à être à la mode. Et finalement, cet anticonformisme, il va venir en résonance avec la logique libérale et il va devenir une logique marchande dont les marques vont s'emparer. Cet esprit contre-culturel, il va en fait permettre de vendre pour répondre à cette angoisse vis-à-vis du conformisme et de la standardisation. On va vendre de l'authenticité, de l'individualité, de la différence. Et on a plein de slogans de marques qui vont devenir tournés vers l'individu. Think different ou just do it, donc des logos de Apple ou de Nike, qui vont exalter cet individu et cet individu qui refuse la masse, cet individu finalement anticonformiste, contre-culturel. Parce qu'en fait, la contre-culture, elle se focalise sur l'individu et sur une révolution culturelle des intériorités individuelles. Elle évite de parler des exigences de réformes plus institutionnelles. En fait, les questions matérialistes, elles ont été recentrées vers des questions plus spirituelles, plus individuelles, qui, elles, s'intègrent facilement à des logiques marchandes. Et c'est pour ça que, finalement, la contre-culture devient un anticonformisme de masse. L'individu contre-culturel, il n'a finalement pas échappé à cette redéfinition de l'individu, entamée depuis le XVIIIe siècle, et il va venir valoriser le mécanisme moteur du capitalisme, une promesse différenciatrice par la consommation, et il est donc en fait un peu condamné à une récupération par ce même système.
Ok, ouais, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal comme ça, mais effectivement, comme tu le décris, il y a une forme de cohérence au final, une cohérence malheureuse pour les groupes mentionnés, hippie, punk, reggae, qui... bien que très bien intentionnés dans leur lutte, dans leur révolte, n'ont pas réussi à faire vaciller. Et pire que ça, ont même joué à contre en étant aujourd'hui des produits dérivés d'eux-mêmes, finalement. En tout cas, merci beaucoup, Héloïse, pour cet échange, pour ces explications vraiment hyper intéressantes. Et moi, je vous laisse pour peut-être une future émission de Contrôle Technique. À bientôt.